Voilà, je crois que chacun peut avoir une de ces feuilles. Pourquoi je fais ça? Ben parce que je suis aussi souvent un auditeur dans les cultes, et il ne faut pas me demander un effort de mémoire incroyable. Quand on me cite toute une série de références bibliques, je quitte l'église, ne me demandez pas de faire un examen à la sortie, parce qu'il y aurait des défaillances dans les résultats que je vous donnerai. J'aurais oublié certaines choses. Ainsi, quand on a des notes écrites, ben ça nous permet, si on le veut, après, tranquillement, de revoir tout ça. C'était, sauf erreur, le 7 juin que je suis venu ici et j'ai abordé le sujet de la prière non exaucée, des prières inutiles, des prières qui ne reçoivent pas de réponse positive de Dieu. C'était pas facile pour moi de le faire, mais heureusement ce matin vous me donnez une chance extraordinaire, c'est de vous apporter l'autre aspect de la prière. C'est ce que j'appelle la prière positive, ou alors les prières que Dieu peut exaucer. C'est quand Dieu répond positivement à nos demandes. N'oublions pas, et vous avez quelques notes sous les yeux, que la prière est avant tout un dialogue entre Dieu et les hommes. Nous ne nous adressons pas à un Dieu en métal, ou en pierre, ou en quelque chose, c'est un Dieu vivant. Et c'est à lui que nous pouvons parler. Mais lui aussi est vivant et il nous parle. La prière est un dialogue, il ne faut jamais l'oublier. Je mets aussi en évidence tout de suite le fait qu'il n'y a, selon la parole de Dieu, qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Vous allez peut-être dire, dans l'Ancien Testament, c'est plus difficile à comprendre, mais le fait est que Jésus-Christ est notre avocat est le seul qui nous permette d'avoir une relation de confiance avec Dieu. Je ne veux pas dire j'arrive à la fin de la vie, je ne sais pas quand elle se termine, hein, mais un regret est quelque chose que je ne pourrai jamais rattraper. Je regrette sincèrement et publiquement de n'avoir pas plus souvent parlé à Dieu, de ne pas l'avoir plus souvent écouté. Parce que maintenant, quand je considère le chemin parcouru, je me rends compte qu'il ne m'a jamais dit « tu m'as trop demandé ». Et parfois, j'ai été occupé par plein de choses, même bonnes, alors que j'aurais dû l'écouter, parce qu'il avait à me parler. Ce sont des choses que je ne pourrais pas rattraper. Mais à l'heure actuelle, alors c'est vrai. Je ne veux pas dire je rattrape le temps perdu, mais je n'hésite pas à lui demander de grandes choses, parce qu'il est un grand Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il n'a pas de limite. Et je le dis aux plus jeunes, n'attendez pas les années, je ne sais tout quoi, pour vous approcher avec confiance de Dieu et lui présenter toutes vos demandes. Si, il n'y a pas d'horloge, hein, elle est juste à côté de moi. Elle me menace de son aiguille qui tourne sans arrêt, hein. Alors, je vais essayer d'être concis, et si le temps me le permet, avec votre accord à la fin, quand j'aurai fini ça, je vous donnerai un ou deux exemples de témoignages personnels où vraiment Dieu a répondu d'une façon extraordinaire à des situations dans notre vie personnelle ou de couple. J'ai mis, alors, qu'on soit bien d'accord, c'est quelques raisons de prière exaucée. Donc, je suis certain que plusieurs d'entre vous diront « Oh, mais pourquoi ils ne mentionnent pas ça ?» Je suis conscient que ce n'est pas une liste complète. C'est quelques raisons qui font que Dieu exauce, répond positivement. Mais il y en a plein d'autres. La Bible est remplie, est jalonnée d'exemples, d'enseignements sur la prière. Et je n'ai pas du tout la prétention ce matin de couvrir tout le sujet. Mais quelques-unes des raisons, Dieu approuve un projet. Dieu veut se manifester, Dieu veut rendre heureux, Dieu est sensible à la souffrance, à la tristesse, Dieu veut punir ou doit punir, Dieu exauce même si c'est contraire à sa volonté, Dieu exauce des prières, des désirs non exprimés par une personne. Ou alors les conditions attendues par Dieu sont remplies, Dieu exauce, il donne lorsqu'on le lui demande. Et Dieu est sensible aux demandes faites au nom de Jésus-Christ. Et Dieu peut exaucer, agir, lorsque les hommes obéissent à ce que Dieu demande. Voilà, hein? J'ai posé quelques bases. Maintenant, quelques exemples. Dieu peut agir. Je suis dans un culte ici, pas dans une réunion d'évangélisation. Donc je considère que une large majorité d'entre vous, puisque je ne vous connais pas personnellement tous, hein, ont une connaissance fondamentale de la Bible. Donc je ne vais pas lire toujours l'intégralité des textes ou des récits que je mentionne, parce que très vite vous serez rattrapés. Hein. Mais Dieu peut agir. Dans Genèse 10, verset 13, il y a le récit de Noé et de l'arche. Noé et sa famille seront sauvés à condition de construire l'arche. Donc, Dieu a un projet de sauver, mais cela ne peut se réaliser. C'est Dieu qui fait une prière à Noé, dit « Fais ceci !» Mais Noé pourrait se dire « Bon, Dieu a dit que je serai sauvé. » Non. Fais quelque chose. Et la promesse, la prière de Dieu sera exaucée. Et c'est ce qu'il fait. Noé et sa famille seront sauvés à condition de construire l'arche. C'est pas Dieu qui va le faire à la place de Noé. Il n'envoie pas une armée céleste pour construire l'arche. Il dit, Noé, fais ce que je te demande. Et ça va marcher. Et c'est ce qui s'est passé. Dans Exode 14, versets 1 et 2, je vais quand même prendre ce passage-là, entre autres. Un passage absolument dramatique. L'Éternel parla à Moïse et dit, vous voyez donc, c'est pas l'homme qui parle à Dieu, là d'abord c'est Dieu qui parle à l'homme. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Et Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Vous connaissez la suite. Moïse parle au peuple, le peuple dit d'accord, ils traversent, ils campent. Mais ils ont une peur pas possible. Parce qu'ils entendent, ils voient quelque part au loin, peut-être un nuage de poussière. Ils voient que l'armée du Pharaon vient leur rencontre et qu'elle va les exterminer. Mais l'Éternel a dit, restez calme, vous verrez, ma gloire va se manifester. Le peuple obéit, ce qu'il n'a de loin pas toujours fait, hein, hélas. Mais là, il a obéi. Et il a vu Dieu intervenir d'une façon absolument extraordinaire. Une armée entière engloutie. C'est pas banal. C'est pas courant. Et puis, c'est pas n'importe quelle armée. Mais contre le plan de Dieu, les hommes sont impuissants quelque part. Et même cette armée si puissante, si expérimentée, si forte, si motivée, ne peut rien faire quand Dieu désire vraiment révéler sa gloire. Et il le fait. On le voit, regardez. Oui, c'est extraordinaire quand même. Hein? Le peuple d'Israël doit regarder l'armée adverse et être englouti par la mer. C'est au chapitre 14, le verset 13. Quel spectacle! Parfois, je fais cet effort et c'est intéressant. Je me dis, mais il y a des textes, il y a des mots, des phrases, mais si on les imagine, vous imaginez ce que ça donne? Vous vous mettez à la place d'un père de famille d'Israël qui a sa femme, ses enfants autour de lui, et puis Moïse a dit, vous restez calme, vous regardez. Mais d'abord, ils ont peur. Ils disent, une armée va foncer sur nous, on est anéantis. Et ils voient que l'Éternel peut faire quelque chose que personne d'autre peut faire. Voilà. Dieu peut agir. Dieu est sensible à la tristesse. 1 Samuel, 1, j'ai noté les versets 9 à 17. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, voilà une prière, hein, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » C'est fort, hein? Prier avec une telle souffrance, ne remuer que les lèvres. Et le prophète qui observe se dit, cette femme, elle est ivre, elle n'a rien à faire ici. Il arrive que les serviteurs de l'Éternel se trompent. L'Éternel ne se trompe pas. Cette femme est dans une souffrance terrible. Elle pleure. Elle est longtemps en prière. Et elle dit, je suis ta servante, Éternel, s'il te plaît, donne-moi un enfant. Et si tu me donnes un enfant, il sera toujours pour toi. Ses lèvres bougent. Le prophète regarde, dit, non, non, attends, on ne prie pas si longtemps. Et puis, on ne comprend même pas ce qu'elle dit. C'est pas normal. Dieu ne se trompe pas. Dieu est sensible à la souffrance. Et j'irai plus loin dans ce cas précis. Dieu peut renverser le cours des événements et permettre qu'un couple qui n'a pas d'enfant ait un enfant. Il peut y avoir une stérilité médicalement prouvée qui est renversée par Dieu. J'ai entendu bien des témoignages à ce sujet. Bien des témoignages. Que ce soit en Afrique où j'ai travaillé, que ce soit en Suisse où je vis, de couples qui n'avaient pas d'enfants. On lui disait non. Elle dit, ben, on s'approche de Dieu, on apporte cette situation douloureuse à Dieu. Et ils ont eu un et plusieurs enfants. On peut demander des choses telles que celles-là à Dieu. On a le droit de le faire. On ne peut pas imposer notre volonté à Dieu, mais on peut lui présenter nos souffrances, nos besoins, nos désirs. Anne l'a fait et Dieu a répondu. Le point suivant surprend. Mais Dieu exauce même si c'est contraire à sa volonté. 1 Samuel, chapitre 8, verset 5. Je prends le verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel. Samuel, hein? L'enfant né suite à la prière de Anne, hein? Et vinrent auprès de Samuel, qui est devenu prophète à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez la suite. Ils ont choisi un roi. Dieu a exaucé le désir de ce peuple. Même c'est un mauvais désir, un faux désir, un mauvais plan, contraire au plan de Dieu. C'est assez stupéfiant. Mais Dieu a écouté cette prière qui était mauvaise. Il dit, allez-y, faites. Mais il y a quand même un élément de grâce de Dieu dans tout ça. Puisque Dieu dit à Samuel, avertis-les de ce qui va se passer s'ils ont un roi. Ils auront quand même pas mal de points négatifs en ayant un roi comme tous les autres peuples. Donc Dieu avertit. Ça n'a pas suffi. On en veut un, on l'aura. Eh bien, encore Dieu, dans sa grâce, fait que ce ne soit pas le plus mauvais. En tout cas, d'une partie de sa vie, qu'il devienne roi. Donc, ça peut arriver que Dieu exauce des demandes qui sont contraires à sa volonté. Mais ensuite, il faut assumer les conséquences. Dieu peut réveiller l'esprit d'un roi païen pour accomplir sa volonté. Esdras 1, verset 1 à 4. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole d'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Donc vous voyez que Dieu peut et Dieu parle sans distinction à n'importe qui. Je ne pense pas que Cyrus, roi de Perse, même on est clair, c'était pas un croyant du peuple de Dieu. Mais Dieu réveille son esprit, Dieu lui parle. Dieu parle à n'importe qui, comme il veut, comme il veut. La prière est un dialogue, Dieu peut s'adresser à chacun. Et il lui réveille son esprit. Ainsi parla Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison en Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Étonnant, hein? Vous vous rendez compte? C'est Cyrus qui dit ça. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes. Alors, qui est de ce peuple? Eh bien, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Ben voilà, une demande de Dieu. Esdras, il fait ce qu'il doit, et puis les choses évoluent, et le projet se réalise. On a ensuite dans le livre de Néhémie, et ça c'est assez impressionnant, Néhémie 1 à 6. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. C'est Jérémie qui parle. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole. Et il prie, et ça continue. Remarquez, Vous pouvez contester ce que je dis là. Mais Néhémie n'est pas directement coupable des péchés de son peuple, il me semble. Mais il dit, pardonne les péchés de mon peuple. Il s'associe à l'offense. Il dit, moi aussi, faisant partie de ce peuple, j'ai péché contre toi. Et il pleure, il jeûne, il souffre, il est mal, il est très mal. Il présente pendant des jours et des nuits sa désolation à Dieu. Il jeûne, il ne mange plus. Il lutte, il prie, il désire que l'Éternel intervienne, d'abord qu'il pardonne les péchés. Et puis Dieu n'est pas sourd à sa prière. Dieu répond d'une façon extraordinaire. Parce que Néhémie reçoit l'autorisation de se mettre en route et de mettre à exécution le projet de reconstruire. Là aussi, vous voyez, Dieu promet, Dieu exauce, mais une des conditions de l'exaucement, c'est quand même l'obéissance. Si Néhémie avait dit, « Oh Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné, maintenant je sens, j'entends que tu entends ma prière, je peux continuer de faire mon boulot. » Ben non. Il ne se serait rien passé. Il a fallu que Néhémie se mette en route, et il a encore souffert, il a pris des risques, il a dû avoir beaucoup de sagesse. Lorsqu'il visitait la nuit, ce qui restait des murailles et tout ça, sans rien dire à qui que ce soit, il avait de la sagesse, le gars, hein. Il disait, oh l'Éternel, il n'a pas dit, oh l'Éternel m'a dit, maintenant vous allez... Non, non, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Et quand Dieu fait des promesses, parfois il faut se taire un certain temps pour empêcher l'adversaire de tout anéantir. Il est sage, Néhémie. Il ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais il est présent sur le terrain, il agit, il organise, il motive, et puis le peuple suit et le projet peut se réaliser. Dieu est sensible à la repentance. D'ailleurs, c'est une condition basique pour se remettre en vraie relation avec Dieu. Il faut se repentir. Quand on veut, Seigneur, fais ceci, fais tout cela, bon, j'ai mal fait, mais c'est le passé. Non, 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 non. On peut tromper les hommes, on peut tromper les juges, on peut tromper un avocat, on peut tromper la police, on peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et si on veut avoir une relation honnête et vraie avec Dieu, il faut aussi, très souvent, passer par la repentance. Un autre sujet extrêmement étonnant, qui est relaté très brièvement dans le Nouveau Testament, c'est Jacques, ce qu'on trouve dans Jacques 5, 17. C'est étonnant parce que il est parlé d'un récit qu'on n'a pas dans l'Ancien Testament. Élie était un homme de la même nature que nous. Donc ici, vous pouvez vous dire c'est génial, hein. On est de la même nature qu'Élie. Il n'était pas super extraordinaire, il était un homme comme nous, avec ses forces et ses faiblesses, ses dépressions aussi, ses ras-le-bol de la vie, ses accès de colère, il était comme nous, hein. Était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Je vous demande pas de mettre ça dans vos sujets de prière en ce moment. Pour la Suisse romande, en tout cas. Hein. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. On rappelle, Élie était un croyant comme nous. Il prie avec instance, il est déterminé, il prie, ça bloque les nuages, ça change les conditions météo pendant 3 ans et plus. Nos prières peuvent avoir une influence sur la météo. Je crois pas qu'en Suisse on a souvent, oh peut-être ça pourrait changer, hein, souvent des processions pour invoquer Dieu pour qu'il renvoie la pluie. Il y a bien des pays où ça se fait, hein, je sais. Ou alors ils ont toutes sortes de systèmes. Ah bon, il pleut plus, alors on va faire des sacrifices, on va, les païens s'y mettent, les chrétiens s'y mettent, tout le monde s'y met, ah, pour que la pluie revienne, etc. On peut prier pour la météo. On peut prier pour le temps. C'est étonnant cet exemple, là, dans la lettre de Jacques. Moi, je trouve vraiment étonnant. Parce que juste avant le verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, la prière agissante du juste a une grande efficacité. » C'est impressionnant, hein? Quand on est malade, très malade, c'est un gros problème. Parfois les médecins n'ont pas de solution. Il y a beaucoup de maladies actuellement, des maladies comme on appelle orphelines, hein? Pour Dieu, il n'y a certainement pas de maladie orpheline. Hein? Et même, il y a un système de guérison assez impressionnant, c'est qu'on peut prier pour la guérison. Et c'est associé à la confession des péchés. Et puis de prier les uns pour les autres. Et puis juste après, alors il y a cet exemple monumental d'Élie qui prie pour qu'il ne pleuve plus. C'est fort. Essayez de faire un rapport. C'est impressionnant. Dieu est le maître de la météo. On a le droit, la liberté de prier pour le temps. Mes amis en Afrique, déjà quand j'étais là, j'entendais, il y a eu des périodes de sécheresse assez fortes, surtout de la région Sahel, Burkina Faso, plus haut et autres, là. Ben, il dit, ça suffit, Seigneur, il faut qu'on prie. On veut te demander la pluie. Je crois même que c'est hier, j'ai reçu un mail d'un pasteur que je connaissais il y a longtemps, qu'il remerciait Dieu parce que la pluie était revenue et il demandait qu'elle continue. Il y a un pasteur suisse qui s'occupe de mission à Neuchâtelois d'ailleurs, hein, en Afrique, hein, Pierre Amet. Voilà, hein. Il cite un exemple comme ça où il se rend vers un chef de village païen et tout, qui lui il peut plus et tout, et le chrétien, il dit, on veut prier pour, hein. Il prie, et puis le lendemain, il dit, non, c'est pas possible, hein, il pleut, c'est pas le moment, mais il pleut. Et le païen se dit, oh là, j'ai affaire à quelqu'un qui parle à Dieu. Et Dieu l'entend. C'est encore actuel. Pas penser que c'est que du passé, tout ça. Dieu exauce des attentes non formulées par des prières. J'aime assez cet exemple. Parce que il démolit pas mal de nos idées toutes faites au sujet de la prière. Dans Jean 5, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Ne cherchez pas à expliquer, on n'a pas d'explication. Enfin, ça se passait comme ça. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. C'est beaucoup, hein, être malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Remarquez que cet homme n'a plus la foi. Est-ce qu'il l'a une fois eu? Peut-être tout au début des 38 ans. Ou alors il disait peut-être qu'un jour, tous les autres ne vont pas venir, je serai le seul. Et puis à ce moment-là, je pourrais être le premier, dans l'eau. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais. » Donc j'y vais quand même, hein, mais inutilement. Hein. « Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Tout le monde dit, « Je suis là. » Ben, je suis là, pas je suis là. Et puis sûrement que même, j'imagine, que des gens l'amenaient là, chaque jour. Ben, il est là, il n'est pas ailleurs. Ben, il gêne pas, quoi. Il se débrouille, il est misérable. Hein. Il est là. Peut-être qu'un jour, bon, il y en a quelque temps en temps un qui est guéri. Mais lui, il n'y croit plus. Il y a longtemps qu'il n'y croit plus. Et il ne sait pas qui lui parle. C'est ça qui est intéressant. Il ne sait pas qui lui parle. Donc il ne fait pas une prière. Il dit, oh, si seulement toi tu pouvais me jeter, reste un peu vers moi et dès que l'eau s'agit, tu me jettes dans l'eau. Non, il ne demande rien. Il dit, tu vois, j'ai évalué ma situation, elle est perdue. Mais je suis là depuis 38 ans. Ça fait beaucoup, hein. Est-ce que Jésus va commencer de lui faire un enseignement? Écoute, mon cher ami, si tu veux que je fasse quelque chose pour toi, parce que n'oublie pas que je suis Jésus, le Messie, le guérisseur, je peux tout faire. Il faut que tu saches certaines choses à mon sujet. Il faut que tu te repentes de tous tes péchés, tu en as sûrement fait. Il faut que tu saches que c'est important de vivre de cette manière-là. Non. Jésus ne se présente même pas. Il dit à cet homme, ce pauvre type, hein, ça me fait mal que j'y pense. J'ai jamais été longtemps malade, mais j'aime pas être malade. Même si j'ai une grippe, puis quelques jours je dois rester couché, je trouve que c'est long. Mais 38 ans paralytique, paralysé, oh là. Mais Jésus lui dit, lève-toi. Non mais attends, lève-toi, prends ton lit, bon c'est qu'une natte, hein. Et puis, et marche. Non mais attends. Et remarquez la réaction du gars. Il dit pas, mais attends, tu t'es en train de te ficher de moi, tu te moques de moi, t'as pas vu que je suis paralysé, t'as pas vu que tu sais pas que, tu veux que je te raconte tout ce qui s'est passé dans ma vie. Non mais là, il est en face de lui qui lui dit, lève-toi. Tu prends ton lit, puis allez, pars, marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit, marche. Ça, je trouve intéressant, c'est que celui qui est au bénéfice d'une intervention de Dieu, d'un exaucement quelque part, non formulé, il ne l'a même pas demandé, il le reçoit. Ce matin, il y a eu plusieurs prières au sujet de la grâce de Dieu. Je vous dis franchement que plus j'avance dans ma vie, plus j'ai de la peine à parler normalement de la grâce de Dieu. Ça me touche, je dirais presque excessivement. Parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. On a chanté des paroles extraordinaires. Merci au pianiste, hein, je te remercie d'avoir accompagné ces gens. Génial. Hein. Ça, c'est ton ministère, peut-être dans l'église, hein. Peut-être pas tous les dimanches, je ne sais pas. Hein. Mais combien c'est important. Dieu nous parle au travers des chants. Et quand ils sont soutenus par un pianiste, eh bien, ça nous encourage encore plus. Alors, tiens bon, hein. J'ai presque entendu que c'était une des premières fois que tu faisais ça, c'est vrai? Non, mais alors attends. J'ai le privilège d'être un auditeur de ce culte historique. Mais c'est merveilleux, ça, hein. Dans mon église, il y a très longtemps, on avait toujours des pianistes extraordinaires quand j'étais jeune, c'était beau et j'aimais ça. Et puis tout à coup, ils ont changé de pasteur. Et puis le nouveau, il ne savait rien faire de toute la musique, il n'y a plus de pianiste, plus rien du tout. Ça m'a découragé, vous n'avez pas imaginé à quel point. Et je dis, un culte sans piano, c'est pas vraiment un culte. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, mais mon papa a pu acquérir un vieux piano, parce qu'il n'y en avait pas chez nous. Il dit, il faut tout de suite que j'apprenne, pour que je puisse tout de suite apprendre à accompagner les chants. Et un vieux piano est arrivé dans notre maison. J'ai pris 10 leçons avec un copain d'apprentissage, qui lui était un peu organiste, mais apprenti dessinateur. J'ai pris 12 leçons, et puis je trouvais que c'était très lent, les progrès, hein. Alors je dis, mais il faut que j'apprenne tout seul. J'ai commencé de jouer, de parler, je pouvais, et des cantiques, et de lire, et puis bon. Et puis à un moment donné, j'ai pu dire au pasteur, eh ben, dimanche prochain, je peux accompagner 3 chants. Et puis j'ai dit lesquels je savais jouer. Et puis voilà comment j'ai commencé. Hein. Toi, tu es déjà beaucoup plus doué. Hein. Tu en as plus que 3, je suis sûr. Mais tiens bon, Dieu a besoin de gens comme toi. Des gars comme toi, c'est précieux. Vous n'êtes pas d'accord dans la vie d'une église? Je te dis, je n'avais pas prévu ça ce matin, mais je te dis, ne te décourage pas, mais surtout pas. Hein? Dieu a besoin de chrétiens comme toi au piano. Continue. Des prières non formulées. Eh bien, ce pauvre gars, il se lève, il prend son acte et il part. Je dirais, sans demander son reste, sans poser de questions, hein. Ah, il part. Ben voilà. Ce qui n'a jamais pu se passer, c'est passé. Jean 15, verset 7. Il faut être équilibré quand on aborde la Bible, hein. Il faut pas tirer d'une expérience une doctrine. On doit toujours faire attention dans la Bible avec ça. On doit pas dire, pas ça s'est passé comme ça, ça doit toujours se passer comme ça. Non. Là, c'est une expérience qui s'est passée, ça ne veut pas dire que ça se passe toujours comme ça. Et il ne faut pas dire à tous les gens, parce que ça s'est passé, ça doit aussi se passer comme ça pour toi. Ça, c'est faux. C'est ce qui amène les sectes en réalité. Hein? C'est ce qui crée des gourous. C'est ce qui crée des déviations incroyables. Il faut faire attention. La Bible est un tout. Et c'est pour cette raison que juste après, j'ai mis Jean 15, le verset 7, où Jésus dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça, il faut que la parole de Dieu, sa principe donné par Jésus, que sa parole demeure, qu'elle habite en nous. Pas qu'elle transite en nous, mais qu'elle habite, qu'elle prenne possession de nos pensées, de notre manière de réfléchir, d'agir. Si mes paroles demeurent en vous, mais demandez ce que vous voudrez. Quelle liberté incroyable! Ça, c'est la parole de Dieu. Ça nous donne aussi une très grande liberté dans nos sujets de prière. J'entends parfois des chrétiens qui disent, moi je ne peux pas prier pour ça, c'est trop matériel. Je dis, vous n'avez rien compris. Ou bien vous avez arraché des pages de votre Bible, il vous manque quelque chose. Mais quand je lis la Bible, il n'est pas dit que les choses spirituelles qu'on peut demander. Demandez, vous recevrez une liberté extraordinaire dans nos sujets de prière. Et dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez pas et osez présenter vos besoins à Dieu. » Pour toute chose. Il me semble que j'ai mis une référence là. Oui, c'est d'Éphésiens. Non. C'est Philippiens 4, 6. C'est bien de prendre le verset un peu plus complet. Souvent, ce qui vient avant la vérité capitale, c'est tout aussi important. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En toute chose, il est dit. En toute chose. Pas en certaines choses très spirituelles, en toutes choses. Quel est ton besoin aujourd'hui? Quelle est ta situation pour laquelle tu demandes une intervention de Dieu? Quel que soit ce besoin, tu as la liberté de le présenter à Dieu. C'est peut-être pour aller en vacances. Dis-moi les vacances. C'est pas spirituel, mais c'est terriblement spirituel. Parce que c'est important dans certains cas de notre vie. Il y a quelques années de cela, on avait une sorte de dette, ma femme et moi. On avait pas mal agi, j'avais été prétentieux pour quelque chose. Et puis Dieu m'a dit, puisque tu penses résoudre le problème tout seul, résous-le. Je me suis retrouvé avec une facture. Hein. Mais, dans ces moments-là, je me suis dit, sérieux, justement les vacances, c'est au mois de juin. Pas de vacances, hein, cette année. C'était pas une souffrance, pas de vacances, j'ai plus de boulot non plus, hein. Pas grave, hein, on assume. J'ai reçu des téléphones de personnes que je connaissais pas. Je dis, je vais vous envoyer 200, 300 francs. Je dis, ouf, ça va aider un peu à payer la facture. C'est pour que vous partiez en vacances. Je dis à ma femme, mais attends, je suis gêné. Partir en vacances, mais c'est pas le moment. D'ailleurs, on avait acheté des seaux de peinture pour repeindre le corridor, pour s'occuper, hein, voyez. Mais le Seigneur a demandé à quelqu'un, fais-leur un don de 200-300 francs pour qu'ils partent en vacances. Eh ben, on a dû partir en vacances. Elle n'avait pas dit, vous devez aller aux États-Unis ou en Chine. Allez en vacances, vous en avez besoin. Alors, on n'est pas allé très loin, on est, je crois, allé au bord du lac d'Annecy, hein. On a campé, c'est génial, hein. Mais un besoin que Dieu connaissait, il fallait partir en vacances, c'est important. Demandez avec foi, en étant certain que c'est la volonté de Dieu. Oui, il y a des sujets où il ne faut même pas douter, il ne faut même pas se poser la question si Dieu est d'accord. Parce qu'il est à 100% d'accord de dire oui, mais il faut qu'on demande. C'est dans Jacques 1, les versets 5 et 6. Donc ça, c'est même un sujet de prière. Où on ne doit même pas se poser la question si Dieu veut répondre. C'est intéressant, hein? Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Point. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Je rencontre parfois des chrétiens qui disent, « Oh, moi, j'ai pas de sagesse, je suis pas doué. » J'ai envie de leur dire, attends, tu as un problème avec la Bible, hein, toi. Parce que si tu manques de sagesse, c'est un aveu que tu es en train de faire. Eh bien, à ton aveu, il y a une réponse. Demande, et Dieu va te donner. Il va te donner ce qu'il te faut pour ta vie, pour les besoins que tu as. Il va te donner la sagesse pour résoudre tes situations, peut-être dans ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta vie de couple, ta vie de papa, ta vie de missionnaire, ta vie. Il va te donner la sagesse pour vivre, pour savoir comment agir dans les sociétés, dans le sport, dans la musique, dans la politique. Dieu va te donner la sagesse, mais il faut lui demander, mais il va te la donner. Ne te demande même pas s'il va te la donner. Il va te la donner. Il est prêt. Il est comme avec un paquet de cadeaux devant toi. Et il dit, mais quand c'est qu'il va enfin me demander? Mais quand c'est qu'il va me demander? Eh bien, il y a des chrétiens qui ne demandent pas. Après, ils s'étonnent qu'ils restent tout stupides et bêtes. Ils n'honorent pas Dieu. En plus, ils donnent une fausse image de ce qu'est un chrétien. Parce qu'il faut avoir le courage, la volonté, l'humilité de demander, et Dieu donne. Un dernier sujet, prier et attendre des indications venant de Dieu. Ah oui, il est encore là. Vous voyez, j'ai un chapeau ici, je vais le mettre sur ma tête. Moi, je lui ai donné un nom à ce chapeau. C'est avec humour, c'est pas tout à fait une vérité, c'est même pas une vérité, mais moi je le dis quand même. Ça, c'est le chapeau de l'apôtre Paul. C'est le chapeau de l'apôtre Paul quand il a fait naufrage à l'île de Malte. Parce que, vous savez, hein, il a fait naufrage. C'est écrit dans Actes 27, il a vraiment fait naufrage. J'imagine qu'il avait un chapeau. Peut-être pas qu'il a fait comme ça, mais moi je dis que c'est celui-là. Hein. Parce que j'ai fait une croisière et on a fait une escale à l'île de Malte il y a quelques années. Et puis avant de remonter sur le bateau, il y a des gens qui vendaient des chapeaux. Oh, je dis, on est à l'île de Malte, il y a des chapeaux, eh bien, ce chapeau-là, je l'achète, et je dirai toujours, c'est le chapeau de l'apôtre Paul. Voilà. Donc, je vous avoue quand même la vérité, hein. Mais c'est le chapeau de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui est intéressant? Eh bien, l'apôtre Paul, c'est un prisonnier qui va à Rome pour se faire juger. Il risque gros, mais il a envie de défendre sa foi jusqu'au bout, et il va exactement là où il risque de perdre sa peau. D'ailleurs, c'est bien ce qui arrivera tôt ou tard. Hein. Il est sur un bateau qui n'aurait jamais dû partir. Et il l'avait dit. Il avait dit, ce n'est pas le moment de partir, ce n'est pas la saison pour partir. C'est l'hiver, les vagues sont trop grandes sur la Méditerranée, et les bateaux, ils vont se fracasser. Et puis, ils ne l'ont pas cru, parce qu'ils ont voulu faire vite. Je veux juste vous dire quelque chose maintenant. C'est hors sujet, vous en faites ce que vous voulez. Il y a des croisières sur la Méditerranée, il y a des compagnies. J'en donnais deux, comme ça je ne fais pas de la concurrence. Il y a la MSC et puis les Costa, hein? Des merveilleuses croisières sur la Méditerranée. Vous avez remarqué qu'elles sont très bon marché à partir du mois de novembre jusqu'au mois de janvier. Sur la Méditerranée, j'entends. Elles sont nettement moins chères. Je dis, mais pourquoi? Eh bien, ceux qui lisent la Bible comprennent. La mer, elle est dans cette période-là d'année assez tourmentée. Et ceux qui font des croisières sur ces grands bateaux, dans cette période-là, ils risquent de se faire un peu bousculer. Ça ne veut pas dire qu'ils chavirent. Mais enfin, ce ne sera pas forcément paisible. S'ils lisaient la Bible, ils le sauraient. Mais voilà, il y en a qui pensent que ce n'est pas nécessaire de lire la Bible. Mais c'est fou ce qu'elle peut nous rendre service. Je repose mon chapeau. À un moment donné, ça s'aggrave, hein. Mais il l'avait dit, l'apôtre Paul, qu'ils allaient se casser la figure, que c'était trop grave. Et qu'est-ce qu'il fait, l'apôtre? Il se dit, il aurait pu prier comme ça. Je prends un exemple. « Ô Seigneur, je suis ton enfant, je suis croyant. Si je dois pas aller jusqu'à Rome, c'est ta volonté, et je préfère mourir maintenant. Je serais quitte d'être crucifié, cloué, écrasé, n'importe quoi. C'est peut-être plus confortable de mourir sur la mer maintenant. Amen. » Mais il n'a pas prié comme ça. Il a prié, « Oh Seigneur !» pendant la nuit, hein. Il n'y avait pas beaucoup de croyants. Il y avait sans doute Luc avec lui, je pense, hein. Il a prié, il dit, « Oh Seigneur, je dois aller jusqu'à Rome, s'il te plaît, permets-moi d'y aller, et puis il ne faut pas que je meure ici, et puis Dieu lui répond. Et lui dit, « Ta vie sera sauvée, et celle de tous les passagers. » Et c'est intéressant, il y en avait 276, c'est pas mal, hein, quand même. Bon, c'est pas un Costa, hein, mais c'est quand même 276 passagers. Et Dieu lui dit, un ange lui a apparu, lui dit, ils seront tous sauvés. Il y a des conditions, hein. C'est que, il faut qu'ils t'obéissent. Parce que tu vas leur donner des ordres. Leur dire de manger, tu vas leur dire de faire certaines choses, et puis s'il y en a qui tentent de s'échapper, les soldats, tu vas dire au commandant, coupez les cordes, lâchez les bateaux, là, tout le monde doit rester ensemble. L'apôtre Paul devient le commandant du bateau. C'est lui qui dit, maintenant c'est moi qui commande. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit ceci, on ne va pas mourir à condition que vous fassiez ce que je vous dis. Ils tiennent peinard, ils ont envie de sauver leur vie, hein. Quoique certains, ils auraient préféré faire encore autrement, les soldats, là. Mais l'apôtre qui est vigilant, il voit que certains cherchent à s'échapper. Et la Bible dit, il les voit, il va vers le centenier et dit, hé les gars là, si eux s'échappent, tout est fichu, hein, tout le plan de Dieu est perdu. Ne permets pas ça, c'est clair. Le centenier dit, je t'obéis. Il coupe les cordes, les bateaux s'en vont tout seuls et les gars, les soldats restent, hein, sur le bateau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des conditions que Dieu donne pour qu'ils puissent réaliser l'exaucement complètement. Il ne faut pas se dire que Dieu a fait une promesse et puis bon, tout va s'arranger. Parfois, Dieu nous implique dans l'exaucement. Et c'est là que souvent on fait faux. On oublie. On dit, Dieu m'a donné une conviction que... Ben voilà. Ben non. Dans certains cas, Dieu nous donne un plan à réaliser. Et si tu fais ce que je te demande, ça va marcher. Mais si tu te dégages en disant, bon, moi j'ai prié, j'ai fait mon boulot, ça suffit, il y aura un problème. Voilà. Maintenant, je termine par 3-4 minutes, je peux? Vous me les donnez? Vous êtes gentils. C'est peut-être d'ailleurs la dernière fois que je suis avec vous, hein, j'en sais rien. Je donne deux exemples. C'était en juin 1977 au stade de glace à Bienne, le stade qui a été démoli cette année, la patinoire. Nous avions loué pour 9 soirs et jours au mois de juin la patinoire pour un effort d'évangélisation que nous avons appelé la fête de l'évangélisation. Et chaque soir, il y avait un groupe musical qui se produisait. Il y avait une courte prédication que je donnais, je présidais aussi ces rencontres. Et puis, il y avait un orateur ou un invité qui parlait de son engagement dans un secteur chrétien. Et un certain soir, le sujet était les chrétiens persécutés dans les pays de l'Est. En 77, c'était encore grave. Et nous avions invité un pasteur qui faisait du trafic, hein, avec les pays de l'Est. Et en ce moment-là, dans ces années-là, c'était risqué de le faire. Et puis en Suisse, il y avait des gens qui essayaient de détruire le travail de ces personnes. Et nous avions pris le risque d'inviter un pasteur nous parler de cette situation de souffrance des chrétiens en URSS. J'étais avec quelques amis une heure avant la rencontre du soir au stade de glace, comme chaque soir. Un homme s'approche de moi. Je ne le connaissais pas. Il me dit « Vous êtes un des responsables ?» Je dis « Oui, monsieur. Je dois vous avertir, monsieur, que ce soir, des personnes ont décidé de perturber gravement cette rencontre. Vous aurez des problèmes graves ce soir. Je vous avertis. » On attend des centaines de personnes dans un stade de glace. La sécurité, on a 2-3 personnes pour canaliser les gens, c'est tout. Je dis, oh là, on m'a jamais parlé comme ça. Et l'homme disparaît. Je vais avec mes amis à la salle de presse du stade pour la prière avant. Je dis ça à mes amis. Je dis, il y a une menace très sérieuse sur cette soirée. Personne m'a averti. Comme me dire, prenez des précautions. Facile, hein? Nous prions. Et là, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel dans ma vie. Alors, je priais, j'étais bien réveillé, je vous assure. Je vois en vision. Une armée d'anges, de soldats de Dieu qui prennent possession de tous les endroits autour des gradins, dehors, dedans, partout. Mais je les vois. Je dis, mais Dieu, mais Seigneur. Et puis ils se placent à tous les endroits. Autour, il n'y a plus, je dirais, un mètre d'accès qui n'est pas protégé par les soldats de Dieu. Je reçus une paix au fond de moi-même que je ne peux pas vous expliquer, mais totale. On a arrêté la prière, j'ai dit à mes amis, aucun souci. C'est une armée qui nous protège. Ah oui, oui, oui. Ne faites aucun souci, il peut rien nous arriver ce soir, mais vraiment rien. Nous sommes protégés comme jamais. J'ai présidé la rencontre dans une paix totale. Et il ne s'est rien passé. Personne n'a pu troubler en quoi que ce soit cette rencontre où l'orateur a pu parler avec force de ce qui se passait dans cette partie-là du monde. Dieu a trouvé bon d'envoyer son armée au stade de glace ce soir-là. Les autres n'ont pas vu, je l'ai vu. Pendant la rencontre, j'ai plus besoin de la voir. C'était pas nécessaire. Je l'avais vu. Ils étaient là. J'avais confiance. Et j'étais relax. En octobre 1988, donc environ, oui, plus de 11 ans plus tard, j'effectuais en Côte d'Ivoire un reportage cinéma et photo, vidéo et, photo, avec un ami. J'étais alors secrétaire de la mission depuis la Suisse. Pendant un mois, nous avons fait du reportage, dans toutes les situations, sans autorisation, je dois le dire. C'est-à-dire, je pensais que s'il fallait le faire, il fallait le faire. Je connaissais peut-être pas. Non, je connaissais les lois. Mais j'avais envie de faire mon boulot et je voulais pas qu'on m'en empêche. Quand on est journaliste, normalement, on doit être accrédité, tout ça, mais j'avais pas de temps à perdre. J'ai dit, je fonce. Et j'ai foncé. Un certain soir, au stade Houphouët Boigny, à Abidjan, le stade principal de Côte d'Ivoire, 40 000 places. Enfin, il en a peut-être 32 000, mais quand on remplit le terrain, il y en a encore au moins 10 000. Il y avait un concert d'une tournée mondiale de 24 heures. Et les meilleurs musiciens du monde et chanteurs se déplaçaient d'une capitale à l'autre dans le monde pour obtenir de l'argent. Et voilà qu'ils étaient juste dans cette période-là à Abidjan. Je dis à mon ami, à Roland Gerber, je dis, viens, on va faire un bout de reportage dans le stade où Houphouët Boigny la nuit, parce que c'était 24 heures sur 24. Ça va être génial. La musique, les meilleurs musiciens du monde, c'est génial pour nos reportages. Alors à 10 heures, on prend un taxi, il fait nuit, mais il faisait beau temps, mais nuit totale, on va juste devant l'entrée du stade, qui est déjà depuis plusieurs heures totalement occupée, où ça chante, c'est fou, ça, la musique. On entre dans le stade, dans la nuit, les deux, avec notre matériel ciné, photo, c'est précieux. Le stade s'éteint. Parce que chaque heure, ils éteignaient tous les projecteurs pour les refroidir, je pense, quelques minutes, et pour changer le groupe musical. On est là, on entre la nuit. Il y avait un couloir pour entrer dans le stade, passer à travers les gradins, puis on est sur la pelouse, qui est totalement occupée. Et un stade, mais c'est une plaisanterie noire de monde, forcément, ils sont noirs, hein. Mais en même temps, ils faisaient nuit, quoi. Hein. Et puis, ils faisaient nuit, hein. Alors, on est là, les deux, on avance quelques mètres, difficilement, et mon ami qui est derrière moi me dit « Oh, je viens de me faire voler mon porte-monnaie. » Oh, je dis « Ça commence bien. Qu'est-ce qui sera après, hein ?» On est déjà très des blancs, ça se voit un peu plus facilement que les noirs, et on a du matériel coûteux. On s'est dit, cette fois on est en danger. On est un peu fou, on fait ce qu'on ne devrait jamais faire. Alors, je ne peux même plus dire, c'est silencieusement, à haute voix, que les deux du Seigneur protège-nous, fait que quelque chose se passe. Et puis on avance. À un moment donné, la lumière revient. Mais qu'est-ce que je me rends compte? C'est qu'autour de nous deux, il y a un espace vide d'environ, comme dans un cercle, d'environ 4 mètres de diamètre. Il y a 40 000 personnes entassées. Et c'est comme si nous étions seuls. Je dis, mais attends, tu rêves ou quoi? Je peux filmer, je peux avancer, je peux bouger, il n'y a plus personne, je ne dois même plus dire pardon, excusez-moi, plus rien. J'ai dit, mais comment c'est possible? Et je regarde autour de moi avec mon ami, et qu'est-ce qu'on voit? Sans qu'on ait rien demandé, sans qu'on ait rien entendu, un groupe de soldats ont pris position autour de nous et forment un cercle. Ils ne nous ont rien dit, rien demandé. Ils ne nous donnent aucune indication. On peut se déplacer comme on veut pendant plus d'une heure dans tout le stade, juste devant, vers la tribune. Il n'y a plus personne qui nous dérange. Nous avons un cordon de sécurité, mais vraiment des vrais, hein, des vrais soldats, hein, avec armes et tout, hein. Silencieusement, sans rien dire, ils sont là. Quand on bouge, ils bougent. Quand on recule, ils reculent. Mais on a un vide autour de nous. C'est comme si on était tout seul dans le stade. C'est impressionnant, je vous assure. J'ai rien demandé. Ils m'ont rien demandé. Ils m'ont rien dit. Ils me regardent, pas méchamment, comme des soldats. Un air comme ça, net, fixe, comme pour dire on est à votre service. Ils étaient à notre service. À un moment donné, je dis à mon ami, il faut qu'on a assez filmé, on ressort. Alors je dis, messieurs, merci. On va sortir. Et je me dis, bon là, il veut l'arrêter, hein. Ben non. Il y en a un qui me dit, vous allez rentrer comment? Je dis, en taxi. Alors, oui, il dit, oui. On repasse le tunnel pour sortir avec notre cordon de sécurité. Il y en a un qui arrête un taxi. Le taxi s'arrête. Il ouvre la porte. Entrez. On entre, le taxi part. Vous croyez qu'on peut oublier ça? Dieu exauce, Dieu entend, Dieu connaît. Pour Dieu, rien n'est impossible. Dans la foule la plus dangereuse, et nous en avons connu des dangers dans notre vie, on aurait pu y passer. Mais si Dieu ne veut pas, il peut envoyer son armée, humaine ou divine, pour vous protéger. Il peut répondre à tous vos besoins, à toutes vos attentes. Je donne juste ces deux points. Excusez-moi d'avoir prolongé ainsi, de vous dire, encore actuellement, on voit Dieu intervenir dans notre vie, de couple, de famille et autres, d'une façon extraordinaire. C'est pas que nous sommes extraordinaires, mais vraiment pas. Mais nous appartenons à un Dieu extraordinaire. Et il faut lui demander, et il répond. Je vais prier avant de rejoindre ma place. Notre Père, en abordant partiellement le sujet de la prière, des prières que tu peux exaucer, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné une parole écrite qui nous permet d'asseoir notre foi, de fonder notre foi sur des textes solides, sur des réalités solides et actuelles encore. Père, je te prie pour les personnes qui sont dans cette église ce matin, afin qu'aucune d'elles n'hésite à te présenter ses besoins, peut-être les plus secrets, et qu'elles s'attendent à toi. Dans ta grâce, fais ce qui te semble bon pour cette église et pour ceux qui sont ici ce matin. Et merci, parce que tu m'as aussi manifesté ta grâce depuis tant d'années, à moi, à mon épouse, à nos enfants. Garde-nous, Seigneur, sur le chemin de la foi, tout simplement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie infiniment, infiniment. Et puis, cherchez vous-même encore, vous verrez, c'est encore beaucoup plus riche que tout ce que je vous ai dit.